Alors, ce soir, donc pour ce séminaire, on va entendre un quatrième commentaire du dernier chapitre du séminaire encore, qui sera commenté par Claire Duguay, et ensuite un texte, une intervention de Bernard Nominé sur le savoir est une invention. Donc je passe d'abord la parole à Claire Duguay, qui est membre de l'EPFCL, psychanalyste à Saint-Rémy-des-Chevreuse, et qui va donc faire ce commentaire de ce quatrième extrait.
Merci. C'est l'extrait qui est à la page 129 et 130, qui commence par Je vous donnerai le. Donc c'est dans le chapitre intitulé « Le rat dans le labyrinthe », Lacan questionne l'énigme du savoir en opérant une distinction entre l'apprentissage et l'enseignement. Il ne suffit pas d'apprendre, encore faut-il apprendre à apprendre, ce qui suppose justement de saisir ce qui opère dans la langue, ce qui nous affecte. L'extrait commence par les deux phrases que je vais vous lire. Pour introduire un discours scientifique concernant le savoir, il faut interroger le savoir là où il est. Ce savoir, en tant que c'est dans le gîte de la langue qu'il repose, veut dire l'inconscient. L'inconscient, je n'y entre pas plus que Newton sans hypothèse. L'idéal de la science est de porter un savoir entièrement transmissible, sans perte. Un savoir totalisant qui fait l'impasse du sujet de l'inconscient. Cela n'empêche pas Lacan de se faire le Newton des sciences humaines, celui qui a donné ses lettres de noblesse à la science moderne, avec la célèbre formule reprise dans la question 4 de Radiophonie, « Hypothèses non fingo », et que Lacan reprend « Je ne pose pas d'hypothèse ». Je raye le reste. En 1511, Copernic découvre que la Terre tourne autour du Soleil, suivant la courbe d'un cercle. C'est le principe de l'héliocentrisme qui veut que ça tourne autour. Ça tourne rond, c'est circulaire, alors circuler, il n'y a rien à voir. Le système de compréhension du monde est un tout, pris dans une vue imaginaire. Entre 1609 et 1618, Kepler démontre que le tracé de la Terre est en fait celui d'une ellipse et que le Soleil, à gauche, la croix à gauche, y exerce une force centripète. Il déplace la question du « ça tourne » à celle de « ça tombe ». Cela veut dire que le corps planétaire précipite son mouvement autour du foyer occupé par le Soleil en place de maître, puis s'en éloigne pour y revenir en tournant autour d'un foyer inoccupé. Alors, j'ai fait ce petit schéma parce que je trouve que ça fait comprendre tout de suite et très, très vite. Vous avez, alors, l'ellipse, je l'ai évidemment caricaturée, en fait, elle est quand même un peu plus ronde. Vous avez le Soleil ici. Et il se trouve que la loi de Kepler, c'est qu'en fait, la surface de cette partie-là qui correspond à un angle doit être égale à la surface qui correspond à cet angle-là, le point étant évidemment pas au centre, puisque c'est une ellipse. Ce qui fait qu'ici, la force en fait, centripète va être beaucoup plus puissante et la Terre va tourner très vite, alors qu'ici elle est beaucoup plus loin du centre et elle va tourner plus lentement. Je ne l'ai pas fait, mais en fait ici, si on veut s'y retrouver, et c'est là où sera finalement d'une certaine façon l'hypothèse dont je parlais tout à l'heure, c'est le centre, enfin il y a un point ici, mais pour s'y retrouver, il faudrait en faire un point là, sauf qu'il n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, comment expliquer que ça fasse ce mouvement-là sans mettre un point là ? j'en étais là. En 1686, Newton fait l'hypothèse de l'existence du champ de gravitation à partir d'une formule qui veut qu'en chaque point, l'élément de masse est soumis à l'attraction des autres, sans que rien n'y joue le rôle de médium pour transmettre cette force. La portée de sa découverte est étouffée, car relève d'une formule qui sort de l'imagination. La supposition du champ d'attraction n'explique rien. Elle rend compte. Elle met seulement noir sur blanc. À l'appui de petites lettres et d'équations symboliques, elle suppose la présence effective, non de la relation, mais de sa formule dans le réel, soit ce qu'il en est de la structure. Newton donne à l'écriture un effet d'acte qui se soutient d'une symbolisation correcte. Pour Lacan, la science moderne procède de cette charte. La découverte de Newton est subversive et fait scandale, car elle démontre le réel comme impossible. Comment chaque élément de la masse pourrait-il bien savoir la distance qui le sépare d'un autre ? Lacan convoque la charte de la science moderne au moment où s'opère un virage dans son enseignement. Dans la révolution astrale, comme dans celle de l'inconscient, quelque chose est articulé de nulle part. C'est le point que je n'ai pas inscrit en opposition symétrique du Soleil. Merci. Le savoir ne se soutient qu'à se présenter comme impossible, ce qui montre son rapport au réel. Dans Encore, le réel ne relève plus de l'impossible, mais de la jouissance, avec le support de la substance jouissante de l'individu, là où ça tient, c'est-à-dire au niveau de son corps. Lacan, dans le sillon de Newton, énonce son hypothèse. Et c'est la troisième phrase de l'extrait. Mon hypothèse, c'est que l'individu qui est affecté de l'inconscient est le même qui fait le sujet d'un signifiant. À la page suivante, il nous donne la traduction aristotélicienne de l'individu. C'est le corps. Le corps en tant qu'organisme, ce qui se maintient comme un et non pas ce qui se reproduit. Je crois qu'on peut le comprendre comme le corps d'avant l'opération de corsification du langage dont parle Lacan dans Radiophonie. L'incorporation du symbolique fait le corps par extraction de jouissance et le corps parlant qui en résulte est celui des signifiants articulés du langage. Dans cet extrait, Lacan situe le corps en tant que ce qui s'y jouit, en tant que ce qui se jouit de la matérialité de l'inconscient langage, en amont, donc, dans la constitution du sujet. Un corps parlant qui est aussi corps-sujet, comme le note Colette Solaire pour insister sur la désubjectivation. Ce n'est plus l'articulation des signifiants qui produit le sujet, c'est le corps qui supporte le sujet. Je continue l'extrait. Ce que j'énonce dans cette formule minimale, qu'un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant, le signifiant en lui-même n'est rien d'autre de définissable qu'une différence avec un autre signifiant. Lacan ne renonce pas à l'inconscient langage, mais confirme que le signifiant articulé du langage, toujours défini par la différence, n'est pas premier dans l'affaire du sujet de l'inconscient. Cela ne veut pas dire que la langue qui affecte le corps de l'individu serait une étape dans la constitution de l'être parlant, lequel, une fois sujet, se détacherait du lot de jouissance accolé à un verbiage primitif. La langue est sans cesse présente à la surface même du langage que nous parlons tous les jours. La présence de l'inconscient en témoigne, mais aussi le style propre à chacun, qui atteste des traces de notre rencontre avec la jouissance au sein même de la langue que nous parlons. Traces au niveau des équivoques, comme de la grammaire. Dans ce passage de l'extrait, Lacan réduit le signifiant à sa forme la plus basique, celle de la pure différence. Le signifiant de la langue est incarné. Il est substance jouissante, en lien avec le réel. Un signifiant qui ne fait pas liaison, ni ne s'inscrit dans la métaphore ou dans les chaînes du discours. Ces signifiants sont faits de n'importe quel mot entendu dans tous leurs sens possibles et que seule leur écriture distingue. Ils n'ont aucun accrochage avec ce qui ferait leur sens commun. Des uns qui ne se lient pas comme les signifiants du langage symbolique. Ils sont incarnés par leur rapport à la jouissance. À la différence du symbolique qui constitue un corps, un système, la langue n'est pas un corps, mais une multiplicité de différences qui ne fait pas structure. Je continue l'extrait. C'est l'introduction de la différence comme telle dans le champ qui permet d'extraire de la langue ce qu'il en est du signifiant. L'introduction de la différence permet d'extraire de la langue ce qu'il en est du signifiant, donc. Le sujet ici n'est pas présenté comme divisé par la chaîne signifiante. Il est présenté comme le sujet d'un signifiant qui, d'être isolé, ne fût-ce qu'un temps, de son pendant, se retrouve tout seul. Et la différence ne s'obtient pas en faisant appel à un second signifiant, mais bien à partir du signifiant tout seul. L'hypothèse de l'être parlant ne relève plus de l'articulation S1-S2, mais du signifiant 1 de la langue. Revenons à l'extrait. Je disais tout à l'heure que Lacan ne renonce pas à l'inconscient langage. Didier Grell avait déjà signalé dans son travail la dernière fois. Il y a donc l'inconscient langage, lequel, déchiffré, permet au sujet de s'approprier quelques-unes des lettres de son symptôme. Un inconscient qui ne rend compte que d'une toute petite partie de la langue. Il fonde le sujet à partir de l'articulation signifiante entre S1 et S2. C'est la réponse de l'autre, le S1, qui produit le S2 du savoir et le sujet comme supposé à la chaîne avec son effet de désir et de manque à être. Lacan ajoute l'inconscient langage qui ne nécessite pas l'autre et son interprétation. C'est signifiant en traçant le corps-sujet fait événement de corps, à entendre comme un symptôme analphabète dans la mesure où il relève des signifiants sur leur versant de la motérialité. On en avait un petit peu parlé la dernière fois et j'avais trouvé que c'était quelque chose...
L'inconscient, la langue.
Oui. Oui.
L'inconscient, langage.
Ah là là. Voilà un pied dans le tapis. Oui. Merci. Cet inconscient, donc la langue, est hors de prise et fait le mystère du corps parlant, la langue, par les affects. Son savoir-faire traite le réel en lui donnant une forme qui est toujours singulière et inattendue. Il ne s'agit donc pas de l'inconscient sur le versant du sens, mais de l'inconscient sur son versant de hors-sens. Son savoir-faire, propre à chacun, fait la raison de l'inconscient, la langue, non en ce qu'il interprète, mais en ce qu'il est réel. S'il y a un dialogue possible dans la cure, au niveau de la langue, c'est celui que l'analysant met en acte avec son invention ou sa trouvaille. Dialogue, non dans sa valeur d'échange avec l'autre, mais de sa valeur d'usage en rapport à la jouissance, comme nous en a parlé Nicole Bousséroux dans l'extrait du chapitre « Savoir et vérité » de ce séminaire. Lacan remet en cause l'autonomie du symbolique avec la promotion ici d'une parole première qui serait disjointe de la structure du langage. Elle est hors communication et reste pour l'essentiel insue. Cette question de l'autre est peut-être à préciser, car comme pour le signifiant, sa fonction s'élargit du symbolique vers le réel. En effet, dans la langue, les signifiants viennent de l'entourage, de l'autre qui compte pour le bébé. Ainsi, avant d'être le partenaire convoqué dans le jeu du Forda, premier accès à la symbolique du langage, il est celui du partage de la langue. On a tous connu ou observé ces moments au charme surréaliste d'un dialogue à base de signifiants hors sens, uniquement mus par leur matière sonore entre un bébé et un adulte. Ils sont livrés par l'adulte à l'enfant qui les entend et y répond, le tout dans des gesticulations affirmées des corps et des visages. La langue du bébé lui vient par la langue de l'autre. Ils peuvent être plusieurs à cette place. Elle porte la trace de ses jouissances, d'où le mot jouissance côté adulte, d'où le mot d'obscénité pour la qualifier. Ainsi, le grand autre intervient de plusieurs champs, réel et symbolique, d'où les deux énoncés de Lacan à quelques pages d'intervalle dans le séminaire. Voici le premier. Page 88. L'analyse est venue nous annoncer qu'il y a du savoir qui ne se sait pas, un savoir qui se supporte du signifiant comme tel. Qu'est-ce qui sait ? Qu'est-ce qui sait ? Se rend-on compte que c'est l'autre ? Le statut du savoir implique comme tel qu'il y en a déjà du savoir et dans l'autre, et qu'il est à prendre. C'est pourquoi il est fait d'apprendre. L'embêtant est que l'autre, le lieu, lui, n'en sache rien. Le deuxième extrait qui est page 116. C'est un qui, tout au contraire de la chaîne, sont tous faits de la même façon, de n'être rien d'autre que de l'un. Comment situer dès lors la fonction de l'autre ? Comment si, jusqu'à un certain point, c'est simplement des nœuds de l'un que se supporte ce qui reste de tout langage quand il s'écrit ? Comment poser une différence ? Car il est clair que l'autre ne s'additionne pas à l'un. L'autre seulement s'en différencie. S'il y a quelque chose par quoi il participe à l'un, ce n'est pas de s'additionner, car l'autre, comme je vous l'ai déjà dit, mais il n'est pas sûr que vous l'ayez entendu, c'est l'un en moins. Le signifiant S1 est incarné dans la langue. Il s'en extrait pour passer au langage par l'inconscient, sans nécessité de l'autre symbolique et sans sujet. L'articulation au S2 est en fait une répétition. Vous êtes mon sauveur ce soir. L'articulation au S2 est en fait une répétition du S1. Un S1 bourdonnant. Bruissement de la langue qui peut se faire entendre dans le réel, par exemple dans le cas de l'hallucination psychotique. Avec l'inconscient langage, l'autre est celui du signifiant lui-même, dont le lieu est le corps vivant où il porte ses effets. Dans l'extrait retenu pour ce soir, excusez-moi, Lacan affronte la question qu'il avait jusque-là mise en réserve. D'où surgit le sujet qui est représenté par un signifiant ? La réponse n'est pas simple, d'autant plus que son énoncé sera le sujet des prochains extraits à commenter. Nous sommes nombreux sur ce chapitre. La fin de l'extrait nous oriente d'une manière surprenante sur cette énigme du sujet. Dire qu'il y a un sujet, là c'est la fin de l'extrait. Dire qu'il y a un sujet, ce n'est rien d'autre que dire qu'il y a hypothèse. La seule preuve effet de corps. La seule preuve que nous ayons que le sujet se confonde avec cette hypothèse et que ce soit l'individu parlant qui le supporte, c'est que le signifiant devient signe. Comme pour l'inconscient et le savoir, Lacan propose une lecture supplémentaire, voire un nouveau paradigme pour la question du sujet dans son rapport. C'est supportable pour vous ?
Oui, oui, oui.
J'ai bientôt fini. Donc, comme pour l'inconscient et le savoir, Lacan propose une lecture supplémentaire, voire un nouveau paradigme pour la question du sujet dans son rapport au signifiant 1 de la langue. Il ne fait pas lien, liaison, articulation avec un autre signifiant. Il fait directement signe du sujet. Lacan va jusqu'à le réduire, ce signe, à la dimension de la chose, le chosifier, c'est-à-dire lui donner une substance. Peut-on parler, comme on a fait pour l'inconscient, le signifiant et le grand autre, d'un sujet qui ne serait pas seulement supposé à la chaîne symbolique, ni seulement sujet évanescent, un sujet réel, représenté par un signe. Oh, Merci. Un sujet réel, représenté par un signe, nous dit Lacan, c'est-à-dire du côté du corps-sujet, de la substance jouissante, de la chose. Comment faire l'hypothèse d'un sujet dans le réel, alors que par définition, les traces de son inscription excèdent au langage, comme au corps du symbolique? La même question pourrait se poser pour l'inconscient langage, qui ne se démontre pas, ni ne s'atteint par la logique. Elle se manifeste. La formule de Newton pourrait s'appliquer ici. Hypothèses non figo. Lacan lui répond par le nœud, qui fait un. Et après encore, par un néologisme, le par-lettre. Il le définit d'ailleurs comme une façon d'exprimer l'inconscient. Il prend le pas sur le sujet de l'inconscient. Plus exactement, il ajoute le sujet de la langue au sujet de l'inconscient. On savait que l'humain est un animal affecté par le langage. Ce qui va changer dans la nouvelle proposition de Lacan à propos du par-lettre, c'est que le verbe s'incarne et fait jouir, faisant de l'humain un être ravagé par le verbe. Avec l'inconscient savoir de la langue, le sujet est mis en équivalence avec le corps parlant, par l'intrusion du signifiant et les effets d'affect qui en résultent. Le sujet se déduit. On retrouve l'hypothèse de Newton. Pour autant que le signifiant 1 passe au signe, c'est-à-dire devienne quelque chose pour quelqu'un. Par exemple, le signe chez le fumeur, supposé par un autre qui voit la fumée, ou encore le signe chez l'analysant, pour lequel l'analyste entend la langue. Lacan dit, vous pouvez entendre ce signe comme il vous plaira, y compris comme le thing de l'anglais, la chose. Cette opération produit le corps-sujet qui s'anime et qui parle donc. Moi, je n'irai pas plus loin, puisque c'est l'extrait que commentera la prochaine fois nos collègues. Et je terminerai à la lecture du séminaire encore et à l'exercice du commentaire de l'extrait choisi. Je me suis pris plus d'une fois les pieds dans le tapis des différents sens que Lacan donne au concept d'inconscient, de sujet, de signifiant, de réel. Et puis, consciencieusement, j'ai lu encore et encore, entendez-le comme vous voulez, ce séminaire avec la pensée des autres, histoire de prendre un peu de hauteur. Peu à peu, La dimension de redoublement des concepts, de double inscription s'est imposée, selon qu'on pense du côté du symbolique pris dans le corps des signifiants ou du côté du réel et de son corps de substance jouissante. Ainsi, la lecture d'un corps oblige à distinguer et à articuler les marques laissées par la langue hors sens et celles laissées par le dire qui a véhiculé cette la langue. Le dire laisse aussi sa marque propre au niveau du sens du désir de l'autre, à l'endroit du sujet. Une double marque, donc, qui signe l'hypothèse de l'être parlant. Les pieds dans le tapis du sens et la tête dans les étoiles d'un réel hors sens, je n'ai pas croisé ni Lacan ni Newton. Ouf. Mais peut-être un reste quelque part qui chatouille encore entre ça manque et ça jouit. Je suis désolée.
Merci. Claire. Ça vous gratouille un peu aussi. Alors je vais passer maintenant la parole à Bernard Nominé, qui est membre de l'EPFCL et psychanalyste à Pau.
Bon. J'ai été frappé par une chose toute bête. C'est que dans la tradition épistémologique, dans la science aussi, on oublie que le savoir n'est pas nécessairement une articulation de la vérité. Savoir n'équivaut pas forcément à savoir le vrai. Je ne découvre pas la vérité, je l'invente, dit Lacan. À quoi j'ajoute que c'est ça le savoir. Cette définition du savoir énoncée par Lacan, c'est dans son séminaire sur les noms du père, a été pour moi une révélation. Et pourtant, si on repense à l'œuvre de Freud et à sa pratique, il est évident que l'efficacité de la psychanalyse repose entièrement sur l'invention de ce savoir particulier dont il a fait l'hypothèse et qu'il a appelé l'inconscient. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, la personne de Freud est vilipendée et où son œuvre est dépréciée, je me suis dit qu'il était peut-être important de maintenir dans notre orientation lacanienne le transfert à l'œuvre de Freud. D'où le sens de mon intervention de ce soir. En effet, il y a 3 ans, au moment où on s'interrogeait beaucoup sur cette histoire de l'inconscient, la langue, en fouillant dans les débuts de l'œuvre de Freud, je me suis intéressé au devenir d'un de ses premiers concepts, inventé au moment où il se préoccupait surtout d'hypnose, inventé par Freud, qu'il a appelé la Gegenwillen, c'est-à-dire la contre-volonté. Et c'est avec cette contre-volonté qu'il expliquait le fameux cas, que vous connaissez sans doute, de guérison par hypnose en 1892. Je vous rappelle qu'il s'agissait du cas de cette jeune accouchée qui souffrait d'insomnie et de vomissements, ce qui rendait impossible la réalisation de son vœu le plus cher, à savoir qu'elle voulait allaiter son enfant. Ce qui est très frappant, c'est qu'à cette époque-là, Freud ne cherche absolument pas à donner du sens à cette contre-volonté. Il en démontre simplement l'existence et il précise qu'elle s'oppose au désir d'un sujet en lui imposant ce qu'il appelle des représentations de contraste pénible qui freine la réalisation de son projet. Ce qui a retenu mon attention dans ce texte, c'est cette remarque qu'il fait concernant une vie saine. Alors, je vous lis là, le passage. Comment donc une vie représentative saine traite-t-elle les représentations de contrastes opposés au projet ? Elle les réprime et les inhibe autant qu'elle le peut, ce qui correspond à la forte conscience de soi propre à la santé. Elle les exclut de l'association. Et ceci réussit souvent à un si haut degré que l'existence de la représentation de contrastes opposés au projet n'est en général pas évidente et ne peut être rendue vraisemblable que par la prise en considération des névroses. Moi, je trouve ça génial. Donc, si l'on suit bien Freud dans son raisonnement, les représentations de contrastes pénibles sont toujours là, associées aux représentations positives qui concernent le projet. Mais cette association est réprimée et inhibée normalement, et elle est faite de connexions métonymiques du genre de celle qui associe un signifiant à son contraire. Dans le cas de la patiente de Freud, sans doute hystérique, Freud ne se préoccupe pas de déchiffrer le symptôme, simplement il en montre la structure. Il s'agit de l'expression d'une contre-volonté qui utilise les mécanismes archaïques de la langue. Il s'agit, pour ainsi dire, d'une jouissance, et d'une jouissance qui fait obstacle au désir. Et si le rôle de l'hypnotiseur est bénéfique, eh bien c'est dû à son désir propre qui vient renforcer le désir défaillant du patient. Alors ça, c'est 1892. Je me suis intéressé au devenir de ce concept. De la... 1892, ça s'appelle « Un cas de guérison hypnotique expliqué par la contre-volonté ». C'est dans « Résultat, idée, problème ». Je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2. Alors, je me suis intéressé au devenir de ce concept. Ce qui n'est pas très facile, parce que dans notre édition française, d'abord, il n'y a pas d'index sérieux. Et en plus, les traducteurs s'en sont donnés à cœur joie pour changer les modes de traduction. Mais si vous vous référez à la traduction de la standard édition ou à la traduction espagnole que moi je fréquente beaucoup et qui a été très très bien traduite, vous voyez que contre-volonté revient régulièrement, alors qu'en français elle revient pratiquement pas. Donc c'est très intéressant. Alors le pas suivant que j'ai repéré, c'est 1901, soit 9 ans plus tard. Dans sa psychopathologie de la vie quotidienne, Freud donne du sens à la contre-volonté en faisant l'hypothèse du sujet de l'inconscient. C'est formidable parce qu'on le voit faire là. C'est-à-dire que ce qui n'était au départ que contre-volonté devient message chiffré d'un désir inconscient qui s'oppose au désir conscient. Et le chiffrage se fait par le biais d'une substitution langagière. Dans ce texte, qui s'appelle, donc c'est la rubrique « Oubli de projet » dans la psychopathologie de la vie quotidienne. Dans ce texte, Freud analyse un oubli personnel. Pendant plusieurs jours, alors qu'il a le projet d'acheter de nouveaux buvards, il oublie de le faire. Et il analyse cet oubli grâce à une substitution de signifiant. Il y a en effet deux mots en allemand pour dire « buvard ». Löschpapier, alors ça lui dit rien du tout. Puis au bout d'un moment, il se dit, ah oui, mais il y a un autre mot, ça se dit aussi flisspapier. La contre-volonté s'est servie de cette substitution signifiante. Ce n'est pas l'achat de buvard qu'il voulait oublier, il voulait plutôt oublier de penser aux ennuis qu'il avait avec son confrère Fliss à cette époque. Avec cette hypothèse de l'inconscient, on pourrait penser que Freud abandonne complètement ce concept de la contre-volonté. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Très récemment, je vais vous le dire, ça date d'il y a 15 jours, j'ai trouvé cette petite remarque, qui est d'ailleurs faite au fameux Fliss, hein, dans l'édition qu'on a maintenant complète de la correspondance à Fliss. C'est dans la lettre 192. Freud avance sa théorie du symptôme comme formation de compromis et il précise « Un couple contradictoire d'accomplissement de souhaits est aussi le sens du symptôme. » Première fois que je repère ça, je trouve que c'est très intéressant. Autrement dit, l'hypothèse du sujet de l'inconscient n'efface pas complètement la thèse de la contre-volonté et, au-delà du sens que l'on peut déchiffrer, la fonction première du symptôme, c'est d'articuler des contraires. Freud a très vite compris que l'inconscient était construit sur le modèle d'un langage primitif, dans lequel les contraires s'articulent sans souci de la contradiction. Il n'est donc pas étonnant qu'il en arrive à écrire que le symptôme sert à coupler des opposés. Cette fonction structurelle du symptôme est très évidente, quand on y pense, elle est très évidente dans la clinique de la névrose obsessionnelle. On retrouve à plusieurs endroits dans l'œuvre de Freud cette référence à l'articulation des contraires dans l'inconscient. Et on comprend l'attention qu'il a pu porter au travail du linguiste Karl Abel sur les sens opposés dans les mots primitifs. Il y a vu là une confirmation de sa thèse de l'inconscient articulé comme un langage primitif. Et pour étayer sa thèse de l'inconscient, Freud n'hésite pas à aller fouiller dans les profondeurs de la langue. C'est notamment le cas quand il se réfère à ce qu'il appelle le symbolisme, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous, on pourrait appeler le symbolisme. Et cette notion de symbolisme est d'ailleurs assez curieuse à lire sous la plume de Freud, parce qu'elle s'oppose, d'une certaine façon, à ce qu'il nous a appris du déchiffrage d'un rêve par l'association libre de l'analysant. Il n'empêche, il s'en sert du symbolisme. Et justement, il s'en sert quand il n'arrive pas à déchiffrer les rêves. Freud définit le symbolisme comme une relation constante entre un élément d'un rêve et sa traduction. Il fait du symbolisme un savoir universel fondé sur les ressources de la langue. Alors essentiellement, l'étymologie, éventuellement l'anthropologie, l'étude des mythes. Le sujet n'y est pour rien dans cette affaire. Ce savoir s'est déposé dans la langue, dans la culture, malgré lui. Et Freud nous donne un exemple que personnellement, à première lecture, j'ai trouvé un peu extravagant. Alors j'ai voulu aller vérifier pour voir si Freud délirait pas là, sur ce point-là. Et je suis allé consulter la référence en matière d'étymologie et je peux vous garantir que les données transmises par Freud sont tout à fait exactes. Freud se pose la question de savoir pourquoi dans les rêves un bois, un bosquet ou une forêt symbolise la mer. D'après lui, et c'est juste, le mot allemand Holz, H-O-L-Z, qui signifie forêt, a la même racine que le mot grec hulé, qui signifie matière. Ensuite, il passe par l'île de Madère, qui est réputée pour son bois utilisé pour la construction navale. Évidemment, pour traverser l'Atlantique, c'était bien qu'il y ait une île avec du bois, etc. Donc on a appelé cette île Madeira. Et il souligne que le mot Madeira sonne comme materia. Et dans materia, il y a la racine mater. tout cela est exact. Et Freud conclut, comme pour se dédouaner, « Je n'affirme pas que le rêveur sache tout cela, mais j'estime aussi qu'il n'a pas besoin de le savoir. » Moi, j'aime beaucoup cette remarque de Freud. Elle répond d'une certaine façon à notre interrogation de ce soir. Que peut-on savoir du savoir inconscient ? Réponse, circulez. Vous n'avez pas besoin de savoir. Ce n'est pas la question. Un peu plus loin dans cette même conférence, se posant la question d'où peut venir la connaissance de ces rapports symboliques, il précise, ces rapports symboliques n'appartiennent pas en propre au rêveur. Je crois qu'on peut légitimement, bien que ça n'est pas tout à fait la même chose, mais je crois que légitimement, on peut rapprocher cette constatation de Freud de ce que Lacan épinglera plus tard à sa façon comme un savoir sans sujet. Freud s'interroge donc sur l'origine de ce savoir et il nous suggère une réponse. On a l'impression d'être en présence d'un mode d'expression ancien mais disparu, sauf quelques restes disséminés. Je me souviens à ce propos de la fantaisie d'un intéressant aliéné qui avait imaginé l'existence d'une langue fondamentale dont tous ses rapports symboliques étaient, à son avis, les survivances. Et c'est vrai, si vous y pensez, que dans la langue de fond de Schreber, on parle à l'envers. On dit récompense pour signifier châtiment, on dit nourriture pour signifier poison, impie à la place de saint, etc., etc. Cette référence au symbolisme est quand même un peu gênante et ne cesse pas de m'étonner. On aurait pu penser qu'après la traume de Jung, Freud se serait désintéressé de cette piste. Eh bien, pas tout à fait, puisqu'on retrouve ça dans un article de 1925 qui est considéré comme un additif à la théorie de l'interprétation des rêves. Freud y examine, c'est intéressant, les limites du déchiffrage. Et il accentue que le fait que le rêve est une activité psychique qui n'est pas faite pour communiquer, mais pour apporter un « Nutmittelbaren Lustgewinn », c'est-à-dire un gain de plaisir immédiat. Et c'est là qu'il revient sur son symbolisme, en soulignant que c'est un thème de notre pensée archaïque, de notre langue fondamentale, pour reprendre l'excellente formule de notre paranoïaque Schreber. Autrement dit, en cherchant bien, on peut trouver chez Freud cette notion que l'inconscient est fait de cette jouissance archaïque déposée dans la langue et que cette zone de l'inconscient n'est pas un savoir accessible au sujet, il ne lui appartient pas en propre, mais il est bel et bien là pour servir à autre chose qu'à la communication, ce qui est normalement ce qu'on attend d'un savoir, hein, et qui est là pour procurer un Lustgewinn immédiat, un gain de plaisir immédiat. Ce n'est donc pas avec un savoir traditionnel que l'on peut approcher cette zone de l'inconscient. C'est-à-dire que ce n'est pas avec un savoir articulé avec des signifiants qui prennent sens. Ce n'est pas avec un savoir qui s'apprend, qui confère de la reconnaissance, voire du pouvoir. Bref, rien à voir non plus avec un savoir universitaire. Et pourtant, il y a quelque chose à inventer à partir de ce trou noir. Là où il n'y a pas de rapport sexuel, dit Lacan, ça fait traumatisme. Alors on invente. En effet, dans cette zone de l'inconscient où les signifiants s'articulent à minima, c'est-à-dire par paire d'opposés, rien ne peut faire rapport. C'est pour pallier cette absence d'articulation que le névrosé invente. Il invente un roman familial, un mythe individuel, où les signifiants copulent. Et on pourrait supposer que ça lui convient parfaitement. Mais c'est justement ce que Lacan met en doute. Quand il dit, ça c'est une phrase qui m'a toujours frappé, je ne la comprenais pas jusqu'à présent, c'est dans le mythe individuel du névrosé, il dit « le complexe d'Œdipe a sa valeur, non pas du tout normativante, mais le plus souvent pathogène ». C'est vrai que quand on y pense, le cas de l'Homora le démontre assez bien. Il montre, il illustre le mal de chien que ce patient se donne avec un certain nombre de pères d'opposés, la femme riche, la femme pauvre, rembourse la dette, non, on ne la rembourse pas, ou avec des actes contradictoires, le petit caillou enlevé de la route, ou l'idée de le remettre à sa place, il se donne un mal de chien pour intégrer tout cela dans une histoire cohérente. L'obsessionnel pense, c'est là son drame. Il ne se résout pas au « je ne pense pas pour être ». De ce fait, il faut qu'il prenne à sa charge, il faut qu'il prenne au compte de ses pensées tout ce bazar de signifiants qui ne font la paire que pour s'opposer les uns aux autres. Quand Lacan fait l'éloge du savoir comme invention, ce n'est pas à ce savoir articulé comme mythe individuel qu'il se réfère, mais au savoir articulé hors de toute signification, c'est-à-dire au savoir de la logique. La logique n'a pu se frayer, dit Lacan, qu'à partir du moment où l'on a pu assez vider des mots de leur sens pour leur substituer des lettres. C'est toujours séminaire, les noms du père. Ça, c'est une référence à la logique d'Aristote. Si j'avais eu plus de temps pour préparer mon truc de ce soir, j'aurais débrouillé un peu. C'est l'étude du syllogisme chez Aristote, c'est une grande, grande référence de Lacan. Mais c'est assez aride, c'est pas très amusant à lire. Enfin, on voit quand même que Aristote doit substituer toute une proposition par une seule lettre. Et la logique s'articule comme une suite de déductions. Par exemple, tout alpha est bêta, tout bêta est gamma, donc tout alpha est gamma. Le savoir que le discours analytique produit est de ce style, c'est-à-dire fait d'articulations logiques qui se passent de la pensée du sujet et qui se déposent comme savoir réel. Compliqué, ça. Ce concept de savoir réel ne doit pas nous induire à faire glisser l'inconscient du côté de l'instinct. Ce savoir réel n'est rien d'autre qu'un frayage établi par ce dépôt d'articulation logique qui ouvre la voie de la répétition. L'inconscient en passera par cette voie frayée pour fabriquer ses formations symptomatiques. Et ce savoir réel ne peut s'approcher que par une écriture logique. Je cite encore Lacan dans Les non-dupes. Dans la logique mathématique, la démonstration ne repose que sur une certaine façon de s'imposer à soi-même une combinatoire parfaitement déterminée d'un jeu de lettres. Il faut dire que Lacan nous montre l'exemple. Quand il reprend, par exemple, les cas de Freud et qu'il en inscrit les coordonnées dans ses schémas. Moi, je pense, par exemple, à toute cette valse des places dans le schéma L que vous avez dans le séminaire sur la relation d'objets pour expliquer la différence de la position de Dora et de celle de la jeune homosexuelle. Mais il y en a plein d'autres exemples, bien d'autres graphes que Lacan utilise pour faire rentrer le réel de la clinique dans une articulation logique. C'est à mon sens ce qui caractérise au mieux l'invention lacanienne, ce traitement du réel de la clinique par la logique. Lacan considère qu'il faut céder à la duperie d'une écriture correcte pour que surgisse quelque chose du discours analytique. Donc, à côté du savoir de l'historisation acquis à moindre frais, à côté du savoir inventé du mythe individuel, pour lequel il faut se donner un peu plus de mal, il faut prendre en compte cette invention de savoir qui se construit avec l'outil logique, qui est sans doute la seule façon de border le trou du réel. La vraie question n'est donc pas « que puis-je savoir d'un savoir insu ?» mais plutôt « comment prendre la mesure de ce savoir qui parfois m'affecte sans que je puisse d'aucune façon me l'approprier ?» Ce savoir est sans sujet. Il est réel en ce sens que l'hypothèse du sujet faite par la psychanalyse freudienne ne recouvre pas tous les effets de la langue. Reste donc l'invention. Mais pas de n'importe quelle façon. Il y aurait un risque à vouloir à tout prix se faire sujet de ce savoir réel. L'invention pourrait virer au délire. C'est ce dont on recueille parfois les échos, comme méfait d'une thérapie qui a encouragé le patient à donner du sens à tout ce qui lui arrive. L'invention de savoir que la cure psychanalytique peut encourager et produire, c'est une invention qui respecte le trou que constitue ce savoir sans sujet qui nous affecte. Une invention qui ne recouvre pas la méprise du sujet supposé savoir, mais qui apporte à celui qui en a fait l'expérience un certain savoir être là où normalement on ne se sait pas être. Savoir être là implique que l'on ait repéré la logique de cette place. C'est une condition nécessaire pour pouvoir l'occuper pour un autre et participer ainsi à l'invention de la psychanalyse. Il est urgent de continuer à inventer la psychanalyse. Voilà.